Alors, je m'appelle Laura et il y a 3 ans maintenant, je suis partie en voyage avec mon copain pour 8 mois. Et le premier pays qu'on a fait, c'est le Mexique. Pays qui ne nous faisait pas forcément peur au départ. Et en fait, en discutant de la destination avec les gens autour de nous, c'est drôle hein, parce que c'est pas nous qui avions cette idée en tête. Mais voilà, on s'est mis à discuter avec notre entourage et les gens ont commencé à nous faire peur, à nous dire mais le Mexique c'est un pays dangereux, vous allez atterrir où, vous allez faire quoi, vous allez voir qui. Et du coup, on a atterri avec une boule, une angoisse en nous et en se disant est-ce qu'on a bien fait.
Vous écoutez Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. Deux fois par mois, je reçois un ou une invitée qui se raconte au travers d'un voyage qui l'a marqué. Dans cet épisode, Laura raconte le Mexique. Avec elle, on a parlé d'amour de jeunesse, d'obésité infantile et de Noël.
J'ai bourlingué à travers le monde. Dès les premières heures où on est arrivé là-bas, on s'est senti tout de suite bien. Donc on est arrivé chez ce Français qui nous a hébergés pendant 4 nuits. C'était très drôle parce qu'Elzo n'avait jamais fait de couchsurfing de sa vie. Elzo, c'est mon copain. Elzo n'avait jamais fait d'auberge de jeunesse. Et pour lui, c'était très bizarre de débarquer chez un inconnu qui t'ouvre sa porte, son lit. On était chez nous, quoi. Et je pense que ça a été l'une des plus belles façons de commencer ce voyage parce que d'emblée, on a été dans le bain. Le mec nous a fait visiter la ville en nous faisant faire des tours dans sa voiture, en nous faisant rencontrer son entourage, en nous emmenant dans les petits restaurants qu'il aimait bien. Dès le début, on a planté le décor et le Mexique s'ouvrait à nous. On est resté à Mexico une bonne semaine. Je pense que c'était histoire de s'acclimater, de commencer à prendre la température, de s'adapter à la langue, au jet lag. Donc ça a été une semaine que moi j'ai beaucoup aimée. En plus, on est arrivé pour la fête des morts. C'est une semaine très particulière au Mexique. Ils sont très très croyants. Et c'est une croyance que j'ai trouvée très belle, contrairement à chez nous, où c'est vrai que la fête des morts est un peu triste, un peu glauque, clairement. Ben là, en fait, c'est simple, ils se réunissent tous en famille et ils vont manger au cimetière sur les tombes avec le pique-nique, les boissons locales, pour rendre hommage à leurs disparus. Donc on est arrivé, on a été baigné tout de suite dans cette ambiance très chaleureuse et très accueillante. Et puis on a visité tout de suite les monuments principaux, ce qui nous donnait envie, on a commencé à goûter aux spécialités culinaires. Et voilà. Ensuite, on a pris notre premier bus, on a commencé par le nord. On a voulu monter un petit peu pour directement redescendre jusqu'au sud. Donc on est monté, on a fait 2 villes. Et la première, San Miguel de Allende, a été un peu un point de départ pour notre voyage. C'était pas du tout prévu. On a fait notre première auberge de jeunesse. Et en arrivant à San Miguel de Allende, on a rencontré donc ce monsieur de 50 ans qui s'appelait Luis. Et qui nous a tout de suite pris sous son aile un peu en nous faisant découvrir la ville. Alors Luis n'était pas du tout originaire de San Miguel de Allende. Il a débarqué dans l'auberge de jeunesse un jour avant nous, avec une moto recouverte de caméras, de micros. Sur le coup, on s'est dit, c'est quoi ce type qui débarque façon road trip, mais on voyait que c'était pas vraiment road trip parce que c'était ultra chargé, avec des bagages à droite, à gauche. Et en fait, je sors de la douche de l'auberge de jeunesse, puis je vois qu'Elzo est en train de papoter avec ce monsieur, et qui me dit « Ok, je te présente Luis, bah voilà, il a 50 ans, il a monté une boîte d'événementiel, il a travaillé dedans toute sa vie, et il y a un an, il a pété un câble, il s'est acheté cette moto, et il parcourt le pays pour découvrir les villes des plus grands compositeurs mexicains, des compositeurs de musique traditionnelle. Son rêve, c'était d'aller interviewer ces gens. Là, il s'agissait de son premier reportage pour créer sa chaîne YouTube. Et rapidement, en fait, on a discuté avec ce monsieur, il nous a emmenés dans un bar, puis dans un autre. Et le lendemain, pareil, on refait la même. Il nous fait découvrir les chansons traditionnelles avec les histoires de tous ces auteurs. Et du coup, on découvrait cette ville au travers, en fait, ces musiques traditionnelles. Donc ça sortait ni d'Ève ni d'Adam, ça sortait de nulle part. Mais nous, ça a été genre génial. On débarque là-dedans, on connaissait pas la ville, on connaissait personne. Et on se fait, voilà, prendre dans cette espèce d'élan trop cool. Et au bout de 3 jours, Luis nous dit « Bah, écoutez, si ça vous dit, moi j'habite un peu plus au nord, à Aguascalientes, venez !» Ok, alors on regarde un peu, Aguascalientes, clairement c'est moche, il n'y avait rien à voir, c'était pas du tout dans l'itinéraire de base, puis on pose un peu le pour et le contre, et c'est là où on s'est dit « C'est génial en fait, on peut faire ce qu'on veut. » En fait, dans ce voyage-là, on a juste pris un billet aller, on peut faire ce qu'on veut. Et c'est ces petites rencontres qui vont nourrir notre voyage. Et tant pis, on voulait aller voir un temple à droite ou à gauche. Et ben, au lieu de ça, on va aller chez Luis. Et puis on va vivre une expérience peut-être qui va être très sympathique. Bon, on est resté un peu plus d'une semaine. Premier soir, on arrive. Il nous emmène faire les 80 ans de son papa. Donc on a été, voilà, tout de suite intégrés dans cette belle famille.
Et pendant une semaine, ça a été que ça. Et c'était très drôle parce que Louis était fier. Il était fier de recevoir deux petits Frenchies chez lui. Il a pris beaucoup mon copain sous son aile. Je pense qu'il a eu un coup de cœur, peut-être parce qu'il a que des filles. Il est entouré que de ce petit monde féminin. Et du coup, voilà, il a partagé beaucoup de choses avec nous. Et puis, les jours passent et Louis se confie. Et en même temps qu'il nous fait découvrir sa ville, son univers, il nous emmène dans son entreprise où il travaille avec sa fille, son beau-fils. Et il nous dit, voilà, j'ai eu 3 divorces dans ma vie. Et puis, il y a un peu plus d'un mois, j'ai repris contact avec une femme qui était mon premier amour quand j'avais 20 ans, qui habite au sud du Mexique, dans une ville qui s'appelle Oaxaca. Donc, Oaxaca, Aguascalientes, c'est des milliers de kilomètres. Ce serait un peu comme chez nous de dire Amsterdam, Marseille, quoi. C'est deux ambiances, deux univers. Et il dit, mais voilà, je l'ai revue il y a un mois, je l'ai recontactée sur un site internet, et on a eu un coup de cœur. J'aimerais que vous fassiez quelque chose pour moi. Je vais lui écrire une lettre, un poème, une déclaration d'amour. Je vais acheter des fleurs qui vont sécher pendant la fin de semaine. Et puis, Elzo, tu vas apprendre une chanson d'un compositeur mexicain, et tu vas aller lui chanter. Non mais moi, c'était des barres de rire. Mon copain est très introverti, et puis d'imaginer la scène... Et je vois Elzo qui dit « Bon, bah c'est parti, hein. Allez, on apprend la chanson, on se marre tous ensemble. » Enfin, moi, je regarde, hein, je suis spectatrice. Et puis, au bout d'une semaine, on se quitte. C'était des gros câlins. Ça a été beaucoup de pleurs aussi. Je pense que c'était la première fois qu'on avait eu un coup de cœur. Donc, en fait, ultra rapide, parce que ça faisait quoi 15 jours qu'on était en voyage. Donc, c'est rien par rapport aux 8 mois qui nous attendaient. Et puis, c'est parti. On part avec notre petit sac. À côté de notre gros sac de voyage, on avait donc ce fameux tote bag avec les fleurs qui avaient séché, le poème que Louis avait écrit pendant une semaine, il n'en avait pas dormi de la nuit. Vraiment, on sentait qu'on partait avec un... On avait une mission. Entre-temps, on continue le voyage, donc on est allé visiter une autre ville un peu plus au nord, Guanajuato, si je dis pas de bêtises. Magnifique, une ville très colorée, ancienne cité coloniale, avec beaucoup beaucoup d'églises. Pareil, une fois de plus, on a fait du couchsurfing, on a été très bien reçus. D'ailleurs, je tiens à dire que c'est l'une des meilleures façons de voyager que nous avons eu, en tout cas pour commencer le voyage. C'est une bonne façon d'être intégré et de comprendre comment les locaux aiment leur ville, aiment leur pays, sont fiers d'être mexicains et sont fiers de le partager en fait. Et c'est ça qu'on a beaucoup aimé et qu'on va découvrir tout au long de ce voyage, c'est que les Mexicains sont un peuple fier, mais surtout fier de le partager avec des étrangers. Ils étaient toujours contents de nous recevoir et contents de nous le montrer. Donc on fait Guanajuato, on redescend par Mexico, et là on passe donc le cap un peu plus vers le sud, et là on arrive donc à Oaxaca. Donc il faut savoir qu'on a fait des milliers de kilomètres. Entre temps on a vu du paysage, on a vu des villes magnifiques, et on a toujours ce fameux petit tote bag. Donc on arrive à Oaxaca de nuit, et en fait, le lendemain matin, petit déjeuner, on s'apprêtait à aller visiter la ville, qui est une très belle ville, assez grande. C'était la première fois qu'on retombait sur une grande ville, donc on comptait s'y installer un petit peu pour visiter. Il y avait beaucoup de temples autour à voir, mais en priorité, on voulait, on voulait accomplir notre mission, déposer ce fameux colis à Fabiola, qui est le nom de cette femme, pour avoir bouclé la boucle. En fait, on se rend compte qu'on n'avait plus le tote bag. Et là, je regarde Elzo, je dis, il est où ? Bah, je sais pas. Panique, la panique à bord, il n'y avait plus du tout de tote bag, on est retourné à la gare routière, on a appelé je ne sais combien de personnes, sauf qu'en fait c'était complètement débile, parce que on s'est rendu compte que perdre un tote bag qui n'a aucune valeur dans une ville immense au fin fond du Mexique, c'était mort. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon copain pleurer, donc le pauvre, je veux pas rire, mais vraiment c'était... Ça... Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ça faisait 6 mois qu'on était ensemble. Ce voyage, ça a été un pari risqué. À la base, je devais partir toute seule. J'avais prévu mon itinéraire. J'ai rencontré mon copain au travail. Et là, je lui ai dit, je pars en voyage, c'est la seule condition. Soit tu peux m'accompagner faire un petit bout, soit on se retrouve dans... Je ne sais pas. Bon, bah, je te suis. Voilà, donc ce qui fait qu'au bout de 6 mois, je me retrouve avec Elzo, avec ce tote bag, à aller donner une dame. Il doit chanter une chanson en mexicain à cette fameuse femme qu'on ne connaît pas, un amour de jeunesse de Louis. On perd le tote bag et il se met à chialer. Pardon, c'est un peu brut. Et là, bon bah, je me rends compte qu'on a complètement merdé, on sait pas quoi faire. On envoie un message à Louis, Louis qui nous répond, c'est une blague. Donc on s'est dit, bon, jusqu'au bout, en fait, ça va pas du tout. Qu'est-ce qu'on fait ? Ok, le principal, c'est qu'on aille voir Fabiola et qu'on lui fasse comprendre que Louis avait une déclaration pour elle. Donc on est allé dans un marché aux fleurs, très très joli, qui est en plein cœur de la ville. Oaxaca, c'est une ville avec plein de petites ruelles. Un peu comme toutes les villes, les anciennes cités coloniales en fait au Mexique, t'as beaucoup d'églises, des églises baroques, c'est plein de styles mélangés, mais tout ce mélange en fait forme une unité vraiment jolie, t'as beaucoup de pierres, c'est très coloré. Et en plus, voilà, c'était les restes encore de la fête des morts, donc ils accrochent des banderoles partout, dans la rue, dans les restaurants. Donc voilà, il y avait encore toute cette ambiance festive qui traînait, ce qui fait que la ville était très belle. Donc on arrive dans ces marchés aux fleurs, qui d'ailleurs n'étaient pas juste un marché aux fleurs quand j'y repense. Il y avait des insectes séchés, il y avait des serpents dans des liquides, je saurais même pas dire ce que c'était. Donc on se balade et puis on tombe sur un beau bouquet. Je dis à Elzo, bah vas-y on le prend, tant pis il est pas fané, mais on le prend. Et nous voilà devant le cabinet, donc elle était dermatologue, le cabinet de Fabiola. Là je regarde Elzo, je dis tu vas vraiment chanter. Et donc on est rentré et on dit oui, on cherche Fabiola, on est des amis de Louis et on aimerait lui transmettre quelque chose. Donc on a débarqué donc dans le bureau derrière, elle était en train de faire des papiers. On lui raconte très très vite fait en fait la scène. D'abord elle a été surprise, puis rapidement elle s'est marrée parce que je pense prise d'affection par ces deux petits jeunes là qui déboulent dans son magasin avec des fleurs. Elle devait se dire mais qu'est-ce que c'est? Et puis bon, bah Elzo lui raconte qu'il est censé lui chanter une chanson. Et cette scène qui moi me fait rire et qui était, faut le dire, un peu ridicule, devient hyper jolie parce que Fabiola s'est mise à chanter la chanson avec lui. Et cette petite rencontre qui devait être très rapide en mode on se débarrasse un peu du fardeau, enfin c'était pas un fardeau, mais bon ça a été quand même traîné sur une dizaine de jours, on transmet le bébé, maintenant on s'en va, et ben Fabiola a posé sa journée, et elle a posé celle d'après et celle d'après, et en fait elle nous a pris elle aussi sous son aile, donc d'une différente manière, pour nous emmener visiter une ancienne cité maya, pour nous emmener rendre visite à sa marraine qui fabrique des tapis mexicains dans un tout petit village à 2 heures ou 1 heure de... ouais, 1 heure et demie d'Oaxaca. Donc en fait cette femme qu'on devait juste rencontrer pour 1 heure, bah elle a eu aussi un coup de cœur pour nous et elle s'est dit, bah écoutez, j'ai envie de partager ce moment avec vous. Et ça a été fait et ça a été vraiment magnifique. Puis voilà, entre-temps, en plus, on a eu sa version à elle, donc ça a été très délicat parce que on a eu la version de Louise, fou amoureux, je reconquérir, et puis on a eu sa version à elle, un peu plus mesurée. Et après ça, Fabiola nous a emmenés dans un restaurant qu'elle affectionnait beaucoup. Et moi, j'étais très très contente parce qu'en fait, l'un des buts de ce voyage, voilà, on s'était pas fixé de thématique. On n'est pas là pour se trouver, pour chercher quelque chose. En revanche, il y avait un petit truc qui me tenait à cœur, c'est que j'étais en voie de me reconvertir professionnellement. Et du coup, je voulais voir un peu qu'est-ce qui se passait au niveau de la cuisine. J'avais toujours été attirée par la cuisine et je savais que potentiellement, en rentrant en France, je repartirais sur des études de cuisine. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, dès le Mexique, j'ai commencé à m'intéresser à droite, à gauche, aux saveurs, aux épices, aux mélanges, aux différences de sucré, de salé, et voilà, et Fabiola a contribué beaucoup à ça, et c'est marrant parce que même aujourd'hui j'y pense souvent, elle nous a emmenés donc dans ce restaurant qui était l'équivalent d'un routier en fait en France, donc clairement on ne s'y serait jamais arrêté parce qu'on n'a jamais loué de voiture pendant le voyage, et puis c'était très excentré, et on est arrivé dans ce resto qui payait pas de mine, et puis qui finalement était excellent, et elle nous a commandé différents plats traditionnels, entre autres le fameux mole, qui est l'un des plats typique de cette région de Oaxaca. Donc c'est une pâte, je dirais pas fermentée, mais presque à base de cacao, d'épices, de maïs pilé, de piment, et en fait que tu dilues pour faire une sauce et que tu sers sur de la viande blanche en fait. Donc c'est très marrant ce mélange de cacao sur une viande blanche accompagnée de riz et de haricots. Bah c'était excellent, et c'est là où je me suis dit ok, en fait ce pays est très surprenant, on va pas manger que des tacos et des burritos, qui s'est avéré ne pas être du tout mexicain d'ailleurs. Et Fabiola nous a expliqué que chaque région a sa spécialité, que ce soit culinaire, que ce soit au niveau des boissons, que ce soit au niveau des chants, même des tenues vestimentaires. Et ça a été le point de départ en fait de cette révélation pour moi professionnelle. Je me rappellerai toujours de ce petit moment. Donc Fabiola a posé ces 2 journées et demie là pour nous, ça a été vraiment très beau. Et quand on a quitté Oaxaca, on était tristes. Pour la première fois, mais différent, une tristesse différente que celle de Louise, parce que vraiment, on avait découvert quelque chose sur le pays, quoi. Ça a été, on s'est dit, ok, Oaxaca, on aime, c'est beau, on y reviendra. Et d'ailleurs, ça reste l'une des villes où vraiment, on voudra revenir un jour dans notre vie. Donc après Oaxaca, on a repris le bus pour la 1000e fois depuis ce début de voyage. Donc je tiens à dire qu'on a fait donc au Mexique 5800 km. Donc on a parcouru le Mexique à pied, en bus, en bateau, à cheval. On n'a jamais pris l'avion, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur. On l'a pris entre différents pays, mais pas au Mexique. Et c'était une belle manière de découvrir le pays, parce que même si on voyageait de nuit, ben tu fais des stops, tu t'arrêtes, tu rencontres des gens, tu passes par des petits villages que tu ne verrais jamais si tu faisais des vols directs en avion. Et ça, c'était une belle expérience. Je dirais pas que je le referais exactement de la même manière, parce que c'est très fatigant. Voilà, c'était une belle manière de voyager. Et ce qui fait que quand on est arrivé au point d'après, à San Cristobal de las Casas, qui est haut en altitude, c'est une petite ville, sur les montagnes en fait. Je veux pas dire de bêtises, mais c'est vraiment très haut en altitude, c'est presque à 2000 mètres. Et ben là, on avait besoin un peu de repos, parce qu'on a beaucoup bougé, on a rencontré beaucoup de monde, et pour la première fois depuis le début de voyage, il s'est mis à pleuvoir. Il faisait froid, on s'y attendait pas du tout, on n'avait pas pris beaucoup de choses dans notre sac, parce qu'on est parti très léger. On avait genre 2 pulls chacun, 2 t-shirts, 1 leggings, 1 jean, voilà, ça s'est résumé à ça. Et quand on est arrivé à San Cristobal de las Casas, je pense qu'on a littéralement épuisé notre stock de vêtements chauds. On s'est pris une petite auberge où il y avait que nous. Et pour la première fois, on a cuisiné matin, midi et soir. Ça nous faisait du bien, en fait, de se retrouver et d'aller faire les courses. C'est des choses bêtes, hein. Et en fait, c'est quelque chose que j'adore faire à l'étranger. Aller dans un petit supermarché ou aller au marché et puis acheter et le cuisiner toi-même. Là, on a profité et c'était vraiment le petit moment où on s'est arrêté, où on s'est posé. J'en garde un très bon souvenir, en fait, de cette ville. Et après San Cristobal de las Casas, donc on a quitté la fraîcheur pour repartir vers les températures un peu plus élevées et voire même plus tropicales, parce qu'on se rapprochait du Guatemala, donc on est descendu vers le Yucatan, et là on est allé donc visiter notre premier temple officiel, ce qui est drôle parce qu'en fait autour de Mexico il y en avait beaucoup, mais on n'avait pas forcément envie de faire les gros centres les plus connus, donc on s'est excentré un peu, on a attendu de prendre nos marques, et en arrivant donc à Ixpuril, donc là c'est pareil, on a fait 17 heures de bus... En plus, on était toujours un peu stressés parce que, enfin, c'est pas du vrai stress, mais en fait, tu sais, quand tu fais beaucoup de routes, t'arrives, tu. Voilà, les mecs, ils s'arrêtent au milieu de la route en pleine nuit à 4h du mat, ils disent pas vraiment où on est, t'as 2 personnes qui descendent, 3 qui montent, et du coup, voilà, on était toujours un peu stressés pour ce genre de voyage parce que du coup, on se dit, bon, faut pas louper le truc, sinon on va se retrouver à Cancun, alors que c'était pas du tout prévu. Donc on guettait, jusqu'au moment où vers 4h du mat, on comprend que c'est là. Et on est largué donc au milieu de nulle part dans un tout petit village. On n'avait pas de réseau. En plus, je sais pas pourquoi on a fait ça, mais on n'a pas pris de carte SIM pendant ce voyage. Donc en fait, on n'avait rien du tout. J'avais téléchargé la pauvre carte Maps sur mon téléphone, ce qui fait que j'étais obligée de zoomer beaucoup avant pour la télécharger. Mais arrivé sur place, ça marchait une fois sur deux. Donc là, on débarque à 4h du mat. On avait réservé, donc pareil, une petite auberge. Mais impossible de la trouver, il faisait nuit, il y avait des chiens errants un peu partout. Moi, j'étais un peu flippée de ça. On n'a pas eu beaucoup de frayeurs pendant le voyage, mais les chiens, c'est vraiment quelque chose dont j'étais pas trop sereine, parce qu'un coup sur deux, ils étaient sympathiques. Donc bon, je les fuyais un peu. Et donc là, on est entouré de tous ces petits chiens, et puis, en fait, je dirais pas que c'est le destin, mais à chaque fois, on retombait bien sur nos pattes, et là, en face de la route, on voit un mec, va savoir pourquoi, il nous fait un petit signe de la main, et qui nous dit « Là, voilà !» Elzo! Et en fait, c'était le mec de l'auberge. Je pense que de lui-même, il avait calculé qu'on arriverait en plein milieu de la nuit et qu'il nous dit « Venez, c'est par là ». Donc on fait 3-4 pas et derrière la route principale, donc on retrouve notre petite chambre. Et voilà, on se couche au final bien. Donc on n'a pas dormi beaucoup parce que le lendemain, le but, c'était donc d'aller visiter ce fameux temple qui s'appelle Calakmul. Calakmul, c'est l'une des plus anciennes et des plus puissantes cités mayas. C'est vraiment pas loin de la frontière du Guatemala. Ça doit être à 30 km. Et là, pareil, on se rend compte qu'on n'a pas trop géré. Parce qu'à vouloir jamais prévoir, en fait, des fois, tu te retrouves aussi un peu dans des galères. Tu retombes toujours sur tes pattes, mais des fois, c'est un peu chiant. Et c'est très facile en couple de commencer à remettre la faute sur l'autre. Donc là, on débarque le lendemain matin pour prendre un petit déj dans le village. Et on se rend compte que Calakmul est à 50 bornes de Ixpuril, donc c'est pas rien. Qu'on n'a pas de voiture, qu'il n'y a pas de bus ou peut-être un tous les 3 heures. Et on se dit, bah mince, quoi, comment on va faire ? Et là, tout d'un coup, on tourne la tête et on voit un couple d'Européens. Et en fait, je tends un peu l'oreille. Moi, je suis vraiment comme ça. Des fois, ça peut mettre la honte à Elzo. Moi, vraiment, dès que j'entends un peu quelque chose qui peut nous rendre utile ou ça peut être sympathique, je vais tout de suite y aller. Et lui, il fait « Non, mais Laura, calme-toi. » Non, non, non. Moi, je dis « Ils sont français. » Et ils ont une voiture. Qu'est-ce que je fais ? J'ai même pas fini mon café. J'abandonne Elzo, je cours, je déboule sur la départementale. Je fais « Salut les gars !» je m'appelle Laura, quitte à passer un peu pour une débilos en fait. Je pense que je suis consciente qu'en France on me prendrait pour une gogole, à l'étranger tu te dis c'est pas grave, je m'en fous, je les reverrai plus jamais de ma vie. Bon bah en fait on rencontre Charlotte et son copain. Et là je leur dis bah voilà, je suis avec mon copain, il est là-bas, on cherche à aller à Calakmul. Bah ça tombe bien nous aussi. Mais non. Ouais, là on allait s'y rendre en fait. Et ok, on peut venir avec vous. Là je dis mais y a pas de souci, on partage l'essence hein. Ils disent ouais, bah venez monter les gars, ok. Elzo, petit signe de l'autre côté de la route, viens. Et c'est parti. Et en fait, bah, Charlotte et son mec, bah, qu'est-ce qui s'est passé? On a passé les 4 prochains jours avec eux. Donc on a débarqué à Calakmul. On a fait un peu chacun notre chemin pour visiter la cité, parce que à ce moment-là, on se connaissait que depuis 1 heure de route, donc voilà, c'était aussi un peu le but de pas s'étouffer, quoi. J'allais pas leur sauter dessus tout de suite, les pauvres. Et du coup, on a visité cette cité toute la journée, c'était vraiment très beau, et puis c'était surtout très reposant, c'était très grand, donc on a marché, on s'est projeté, on imaginait qu'est-ce qui avait pu se faire sur cette pierre, sur ce temple, et puis au centre donc de cette grande forêt, il y a cette fameuse immense tour qui devait être l'ancien bâtiment principal de la cité. Donc tu montes des marches, t'arrives en haut et tu surplombes toute cette forêt sur un 360 degrés. C'est la forêt tropicale et tu dépasses juste sur ce petit bout de rocher. Et voilà, je pense qu'avec Elzo, on est resté là bien 30 minutes à regarder devant nous. On s'est même pas parlé, je pense. En même temps, on était tout le temps H24 ensemble, donc des fois, t'as pas besoin de dire. Et puis après, on est redescendu, on a retrouvé Charlotte et son mec et puis on est reparti. Et là, ils nous ont dit, bah en fait, nous, ce matin, on débarquait de je sais plus où, et en fait, on n'avait pas d'endroit où loger. Bah venez, il y a de la place dans notre auberge. Et du coup, voilà, ils ont passé la nuit avec nous. Le soir, on allait boire du mezcal, qui est donc la fameuse boisson traditionnelle. Donc c'est un alcool fait à base d'agave. Très bon et très bien fait, je dois dire, parce que je pense qu'on en a bu plus que j'en ai jamais bu dans ma vie. Et le lendemain, ça allait. On n'était pas si mal que ça. On est tombé sur ce fameux petit bar de petit village. Je pense que le mec était tellement content de partager ça avec nous, qu'il nous a ouvert tous ses mezcals. Il nous a fait goûter, je sais pas moi, peut-être 8 mezcals différents. Bon, à la fin, on est juste parti se coucher, mais c'était très bon. Et après, on a continué un peu ce bout de chemin avec Charlotte et son copain. Là, on voyageait depuis plus d'un mois et demi, presque 2 mois. On dirait pas, mais accumulé, voilà, il s'est passé beaucoup de temps, parce qu'on prenait le temps dans chaque ville. Et arrivé à Bacalar, avec Elzo, on se disait, là, on n'est plus dans le voyage, on est dans les vacances. En fait, quand tu voyages un peu sac à dos comme ça sur le dos, c'est très épuisant, mine de rien. On était en couple, donc c'est-à-dire qu'on était quasiment tout le temps en auberge. C'était pas une question de radinerie, c'était plus une question de mode de vie, donc on était tout le temps en dortoir. Parce qu'on était aussi dans cet élan de, on rencontre des gens, que ce soit des locaux, mais aussi des étrangers, parce qu'en fait, tous ces gens nourrissent ton voyage. Et là, on est arrivé à Bacalar, et c'est Charlotte et son copain qui ont dit, oh, bah si ça vous dit, on va réserver dans une espèce de petite cahute... C'était très beau, une petite cahute au bord du lac salé, avec les moustiquaires, le petit-déj avec. Et c'est vrai que nous, on a pris ça un peu comme du luxe. On s'est dit, on se le permet, on se le permet pas. Ce qui est ridicule, c'est qu'en fait, depuis 2 mois, tu vis pour 7-8 euros la nuit chacun. Là, il fallait lâcher 20 balles chacun. On s'est quand même regardé dans les yeux, genre, on le fait, on le fait pas. Et après, on s'est marré. On s'est dit, mais Elzo, là, faut juste qu'on se repose, en fait. Et qu'on prenne du temps pour nous deux. Parce que, mine de rien, notre couple avait besoin de ce moment d'intimité. Et en fait, à partir de là, donc ça a été un peu les vacances. On a fait Bacalar, Tulum, on a fait Playa del Carmen jusqu'à Cancun pour partir après prendre l'avion. Et en fait, là, ça a été hyper agréable, mais un voyage totalement différent. Voilà, on s'est permis de se prendre un peu plus de Airbnb. On a visité, mais d'une manière différente. On faisait des activités, on a fait du snorkeling. C'était vraiment les vacances. Et on a beaucoup apprécié donc Playa del Carmen, contre toute attente. On a croisé beaucoup de voyageurs qui nous disaient « Vous allez voir, quand vous arrivez... sur la côte du Yucatan, c'est très touristique, très américanisé. C'est vrai que c'est... Voilà, c'est un autre voyage. C'est là, pour le coup, c'était les vacances, fallait sortir les billets. Mais en fait, ça fait aussi du bien, des fois, de se dire, bah, ce matin, on se fait plaisir, on va se prendre un gros petit déjeuner, on a bien dormi, et on va à la plage, tout simplement. Et tant pis, on va pas aller courir, faire des cénotés, et puis le soir, aller faire une randonnée de 5 heures, pour ensuite aller goûter le guacamole de madame qui habite à 4 heures, parce qu'on nous l'a conseillé, et en fait... T'as fait ta to-do list, mais tu t'es pas reposé. Donc là, on a profité de ce moment-là, en fait. Et là, on est parti visiter donc toute la branche au-dessus, donc c'est le Quintana Roo, si je dis pas de bêtises. C'est la petite pointe du Mexique qui remonte, en fait, dans les Caraïbes. Et ça a été comme une deuxième partie du voyage, parce qu'on avait coupé, à tel point qu'Elzo m'a regardé, il m'a dit, viens, on s'installe ici. Viens, on continue pas le voyage, on s'installe. Et puis finalement, bon, les choses ont fait qu'on a continué parce que c'était le début du voyage, donc il fallait continuer de visiter. Pour continuer ce petit trip, on allait se réfugier à Mérida. Après Oaxaca, ça a été l'un de mes deuxièmes coups de cœur, Mérida. C'est une grosse ville, je ne saurais pas dire combien d'habitants, mais c'est vraiment une grosse ville. Toujours un peu sur le même principe, donc t'as un centre historique avec beaucoup de ruelles, t'as l'église principale, ça vit beaucoup. Tous les soirs, il y avait des groupes de musique, on est resté 4-5 jours là-bas. T'avais de la musique, des musiques traditionnelles. Et chose qui changeait, on s'approchait de Noël. Donc en fait, autant au début du voyage, on avait fait Las Dias de los Muertos, donc avec toutes les fêtes traditionnelles autour de la fête des morts. Et là, on se rapprochait d'une nouvelle fête religieuse. Donc comme les Mexicains sont très très religieux, ils attachent énormément d'importance à tout ce qui est décoration, préparatif. Donc là, donc, je me rappelle, au milieu de cette grande place de Mérida, il y avait une énorme crèche géante avec les enfants qui allaient poser sur les genoux des grands-parents. Et ça mange beaucoup. Et il y avait des tables partout avec des petits stands à tacos. Ouais, c'était vraiment très festif. Et on a beaucoup aimé cet endroit. Il y a un truc d'ailleurs qui nous a marqué, là c'est marrant, ça me revient. Donc sur cette fameuse place, on s'est installé, on a pris des tacos. Et on a été servi par un petit enfant qui devait avoir 8 ans ou 9 ans. Et en fait c'est quelque chose, ça, on a été assez surpris de ça. Et en fait... On s'est rendu compte que ça se faisait beaucoup. Ils tiennent beaucoup les entreprises de manière familiale, en fait. C'est pas que de parents à grands-parents, c'est aussi les petits-enfants qui aident. Donc c'est très facile de retrouver des enfants le week-end ou quand ils sont pas à l'école, aider en fait les parents. Et ça, au début, ça nous a un peu choqués, parce que c'était vraiment des gosses qui nous apportaient les tacos à table. Et puis nous qui travaillons dans la restauration, en plus, on observait tout, puis on se disait « Putain, mais le gosse de 8 ans, il fait le travail aussi bien que moi, quoi. » Enfin, c'était très bizarre. Et ce petit enfant-là, clairement, donc ça, c'est un problème qui est... Parce que voilà, en voyage, tu vois tous les bons côtés et tout, mais tu vois aussi les côtés un peu sous-jacents. Les enfants mangent beaucoup et beaucoup de mauvaises choses. Et ça, on s'en était rendu compte par nous-mêmes avant de le constater sur les enfants. C'est-à-dire que nous, on achetait beaucoup d'eau. Parfois, quand on pouvait avoir de l'eau potable, on la prenait. Des fois, on n'avait pas l'occasion d'en avoir, donc on achetait des bouteilles d'eau. L'eau, il faut savoir qu'au Mexique, l'eau est plus chère que le coca. Pourquoi ? Parce que la plus grosse firme, enfin marque principale d'eau a été rachetée par Coca-Cola. Et bien évidemment, pour rendre les gens un peu plus addicts et puis pour que les gens aillent plus facilement s'acheter une bouteille de Coca, qu'est-ce qu'ils font ? Ils haussent les prix de l'eau. Ce qui fait qu'à la sortie de chaque école, les gosses, ils ont quoi dans les mains ? Ils ont un paquet de chips et une bouteille de Coca. Et ce petit garçon-là, en fait, il m'a fait mal au cœur. C'était pas le fait qu'il travaille, parce que ça, bon, bah, j'étais pas à même de juger... Voilà, une façon différente de faire, et puis ça se trouve, il filait juste un coup de main. Mais c'est que ce petit garçon-là était plus qu'en surpoids, et avec Elzo, ça nous avait mal au cœur, on s'est dit, ok, là, il y a un problème, en fait, dans ce pays sous-jacent, et ça, c'est des choses qu'on a retrouvées beaucoup. Et donc, notamment dans la ville d'après, Valladolid, toujours très jolie ville. Les villes se ressemblent beaucoup, mine de rien, et on est arrivé à Valladolid, donc on a fait un free walking tour. C'est des choses qu'on faisait beaucoup. Donc le petit concept est simple, hein, c'est tu arrives dans une ville, tu te renseignes soit sur internet, soit auprès de la mairie, s'il y a des free walking tours. C'est soit des étudiants, soit des passionnés, soit des personnes des fois à la retraite, qui décident de te faire un tour organisé dans la ville. Donc des fois c'est par thématique, c'est-à-dire on va visiter le centre historique, on va visiter le centre sur des références cinématographiques, et le concept est... que le tour est gratuit, et à la fin, tu rémunères le guide par un petit pourboire. Donc du coup, on a fait ça régulièrement, et à Valladolid, on l'a fait, et en terminant ce free walking tour, on arrive sur la place principale, et qu'est-ce qu'il y a ? Non mais même nous, on était choqués, c'était un sketch. Donc on était là une semaine de Noël, un énorme camion Coca-Cola, qui, en fait, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Il y avait des gosses partout, ça grouillait, il y allait avoir un show, un spectacle. Qu'est-ce qui se passe ? Alors nous, comme des gosses... On attend, on se met un peu dans la foule au milieu de tous les gosses qui se poussaient, et au bout de... Ouais, on entend un peu des klaxons, la musique à fond, mais tu vois pas d'où ça vient. C'est une place en carré, quoi. Et il y avait des routes qui arrivaient de chaque côté, donc tu sais pas si ça va venir de gauche, de droite. Donc l'excitation monte, et là, ça déboule. Un camion sur trois remorques, comme dans la pub Coca-Cola, là, le truc qui vole, bah le machin déboule sur la place, et avec une fanfare à l'intérieur, donc Coca-Cola, qui distribue des goodies en lançant... Donc c'était un sketch, hein. Franchement on s'est pris un fou rire, mais c'est triste. Les mecs, ils balançaient des canettes de coca, ils balançaient des espèces de porte-clés, des bonbons, et les enfants couraient derrière le camion et se ruaient par terre pour choper les trucs. Et là on s'est dit, l'impact que ça a sur ce pays et sur les enfants, c'est dingue. Et donc on était à la fois choqués, et on n'a pas pu s'empêcher de se marrer parce que c'était vraiment un spectacle. Et voilà, on a clôturé donc cet épisode Quintana Roo sur Valladolid et sur ce show, en fait, mis à l'américaine, mis à la mexicaine, et pour partir à Isla Mujeres. Isla Mujeres, ça a été le clou du spectacle, c'est la fin du voyage, donc là, on a fait presque 3 mois, on est franchement rincés, mais bien, on est bronzés, on est heureux, on a commencé à se découvrir aussi, parce que ça fait 3 mois qu'on voyage ensemble, donc ça fait 9 mois qu'on est en couple. On s'est un peu engueulé quand même, on s'est accordé, on a essayé de se retrouver, et puis on débarque à Isla Mujeres chez une pote de pote, Marine. Marine est ingénieure, elle vient de France, et ça fait 3 ans ou 2 ans qu'elle vit au Mexique, qu'elle a rencontré un artiste peintre, et qu'elle vit à Isla Mujeres depuis donc 1 an et demi sur l'île, avant ils étaient ailleurs. Et elle nous fait, bah venez les gars, venez chez nous, on a une grande appart maison, venez passer les fêtes de Noël. Et en fait, on est resté 10 jours, et là, c'était vraiment... On pouvait pas rêver mieux, parce qu'en fait, on était bercé dans cette ambiance encore locale. Isla Mujeres, c'est une petite île qui doit faire 3 km de long sur, au plus court, 200 mètres de largeur, quoi. Avec quelques hôtels, parce que c'est très touristique. Beaucoup de nationalités différentes, t'as beaucoup d'expats qui ont monté des centres de yoga. C'est très eco-friendly, comme on dit. Et puis, en même temps, avec tous les locaux qui vivent encore de la pêche, des petites ventes d'artisanat. Et du coup, on est arrivé chez Marine et Adriane, ce couple mixte en fait, qui ont été mais adorables, qui nous ont ouvert leurs portes, on était chez nous, clairement chez nous. Alors c'était drôle, hein, une fois de plus on n'avait pas le confort qu'on aurait pu vouloir, mais en fait c'était, on s'en foutait, on était bien. Donc en fait, il n'y a qu'en voyage que tu fais ça, hein. Marine et Myriam dormaient dans leur chambre, ils avaient pendu un Mac dans la chambre, Elzo dormait dans la chambre avec eux, et moi j'étais par terre sur un matelas de yoga. Je veux dire, tu restes 10 jours dans ces conditions, des fois, tu pourrais dire, non, les gars, on va se prendre un hôtel, on a les moyens. Bah non, on était bien. Et puis, 2 jours avant Noël, ils nous font, bah, vous faites quoi? Vous comptez partir ou vous restez? Allez, restez. Bon, bah, c'est parti, hein, on reste. De toute façon, quand t'as pas de programme, c'est ça qui est génial, c'est que tu peux rester 2 jours si t'en as marre, comme 3 semaines si t'es bien. Et donc, bah, pour la petite anecdote, le 25 décembre, c'était aussi mon anniversaire. Et du coup, bah, j'ai regardé Elzo, j'ai dit, bah, viens, on reste. On va le faire avec des gens qu'on connaît, on est bien. Plutôt que d'aller redébarquer. Puis il faut reconstruire à chaque fois qu'on repart dans une nouvelle ville. Et en fait, ça a été l'un des plus beaux, je pense, Noël de ma vie, parce que ça sortait de nulle part. Il faisait 30 degrés. On était dans une grande maison chez Juan, qui a une belle maison avec piscine dans un patio, sur une ambiance très simple. On était vraiment habillés en short, en t-shirt. Et moi, ce qui m'a marqué, je pense, qui me marquera à vie, c'est cette fameuse viande qu'ils avaient fait mijoter sur le barbecue pendant, je sais pas, 7 ou 8 heures. Qu'il l'avait commencé dès le matin, une grosse pièce de bœuf qui avait caramélisé toute la journée. Elle était cuite juste comme il fallait, avec de la musique toute la nuit. On a dansé et je pense que j'ai jamais parlé aussi bien espagnol de toute ma vie que cette soirée-là. Et voilà à peu près comment s'est clôturé ce voyage. On a serré Adriane et Marine dans nos bras et puis un jour ou 2 jours après, on partait pour la Colombie.
Merci beaucoup pour ton récit.
Avec plaisir.
Pourquoi t'as voulu raconter ce voyage en particulier ?
Pourquoi ? Parce que je pense que sur les différents voyages que j'ai faits, c'est vraiment celui qui nous a marqué, qui m'a marqué, sur plein de points différents. Le premier, c'est peut-être sur la beauté des paysages. C'était très différent en fonction d'où on était. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Que ce soit dans le nord, dans le sud, à l'est, à l'ouest. On a vraiment voyagé au sens propre du mot. Pour les rencontres qui nous ont marqués et qui nous ont marqués et qui nous marquent en fait encore aujourd'hui. Et puis je pense que c'était la première fois que je partais dans un pays où je n'avais pas de repère en fait. D'habitude je partais dans des endroits où je connaissais quelqu'un, j'arrivais chez quelqu'un, où c'était la même langue, c'était une nouvelle page en fait.
Bon, le Mexique ça a quand même une réputation un peu dégueulasse, et hors micro je te racontais que quand avec ma copine on est parti en Colombie, tout le monde nous disait « c'est super dangereux, vous êtes des oufs et tout ». Est-ce que tu peux nous raconter comment c'est au fait sur place ?
Au quotidien, nous, on l'a pas ressenti. On n'a jamais eu ce sentiment d'insécurité, que ce soit ni chez les gens, ni sur la route, parce qu'on a beaucoup voyagé en bus, comme je l'ai dit précédemment. En y réfléchissant, et je sais que, même sur place, j'ai aucun souvenir négatif ou de peur qui me revient en tête. Peut-être la seule peur que j'ai ressentie, c'était vraiment en arrivant sur place. Si, il va y avoir un moment peut-être. Et pourtant, c'était vraiment, je pense, c'était parce que c'était encore l'inconnu. Le premier soir... le français chez qui on dormait nous a emmené manger des tacos à l'extérieur, et avec Elzo en fait on s'est permis d'aller prendre une petite bière à la supérette d'à côté, enfin on l'a bu dans la rue avec les tacos, et les flics ont débarqué et ils ont commencé à nous embrouiller. On n'avait pas droit de boire d'alcool dans la rue, et en fait là c'est un moment où je me suis dit ok, il se passe quelque chose de pas cool. Pourquoi? Parce qu'ils ont essayé de nous soutirer de l'argent, parce qu'on était des touristes, parce qu'on voilà, on n'avait pas su tout ça. Et je me suis dit ok, si ça va être comme ça tout le voyage, ça va être clairement chiant. C'est la seule fois où je me suis dit, voilà, là je me sens pas très bien, c'est chiant. En fait, ça va être chiant. Et en fait, ça s'est jamais reproduit une fois. Voilà, après c'est comme partout, je pense que quand ça sent la merde, faut pas y aller. Quand on se sent pas à l'aise dans un endroit, on n'y va pas. Puis voilà, c'est un peu de bon sens, et puis on se sent bien, et les gens nous accueillent comme il faut après.
Pour se parler préparation de voyage, quelle place tu laisses à l'improvisation une fois que tu pars ?
Je pense que je laisse une belle place à cette improvisation. Pour parler concrètement, voilà comment je m'organise. En gros, avant le voyage, je regarde un peu les endroits qui me donnent envie. Donc je crée un petit itinéraire approximatif, avec les gros points de chute. Je réserve la première nuit, et puis une fois qu'on est sur place, voilà. Je me dis de toute façon, on trouvera toujours un endroit où dormir, on trouvera toujours de quoi manger, il nous manque une brosse à dents, un dentifrice, on le trouvera toujours. Donc en fait après tout est une question de ressenti. On a chaud, on a envie d'aller se baigner, ben on va trouver un endroit où il y aura un peu plus de mer. On a envie de fraîcheur, allez, viens, on quitte la ville, on va vers les montagnes. Et dans tous les cas, dès lors où on a un peu de temps, et qu'on s'accorde en fait ce temps, c'est une improvisation entre guillemets organisée. Ça se fait au jour le jour, mais ça se fait bien.
Qu'est-ce que tu vas toujours prendre avec toi dans ton sac quand tu voyages ?
En fait, je pense que je vais partir. Les fringues, c'est pas ce qui va me faire peur. Je partirai avec le minimum, entre guillemets, sachant que je pourrais toujours trouver sur place. Je vais partir avec mon appareil photo. Alors, je me suis peut-être un peu encombrée, je suis partie avec un gros réflexe, mais je suis partie avec mon appareil photo parce que je ne suis pas du tout téléphone et que je n'avais clairement pas des belles photos avec ce téléphone. Je pars toujours avec une mini trousse à pharmacie. Mais quand je dis mini, c'est... Avant, je partais avec n'importe tout et n'importe quoi. Je me rendais compte que je n'utilisais jamais ça, jamais ci. Donc j'ai toujours du Doliprane. Et puis en fait, c'est marrant que tu me demandes. Parce qu'avec du recul, il n'y a pas grand-chose. Enfin, j'ai pas d'impératif. Je pense qu'il y aura un appareil photo, du Doliprane et une bonne paire de chaussures. Voilà.
Justement, comment tu racontes tes voyages ? Est-ce que tu as un médium préféré pour le faire ?
Je suis partie avec un blog que j'ai tenu pendant tout le voyage. Du coup, voilà, je prenais les photos avec mon appareil. Quand on était posé tranquillement, je prenais le temps de créer mes petits articles, de les poster, de faire des vidéos. J'avais aussi une petite caméra. En fait, j'étais chargée, hein. J'avais aussi une petite caméra. Et voilà, très peu d'Instagram, je faisais quelques posts. Mais dans ma vie de tous les jours, je suis peu réseaux sociaux, je suis peu téléphone, donc je l'ai pas été plus en voyage. D'où ce blog, en fait, qui me permettait, moi, de prendre le temps d'écrire, de retravailler un peu ce que je faisais, et puis de le poster tranquillement.
Comment tu gères le retour et est-ce que tu es atteinte du blues post-retour ? Si c'est le cas, comment tu te soignes ?
Ouais, je gère très très mal le retour, généralement. C'est systématique. 2-3 jours avant de rentrer, j'ai une espèce d'excitation qui monte de « Oh putain, je vais retrouver la maison, c'est cool, mon lit, mes amis, ma famille. » Et passer cette première semaine de retrouvailles, de bon dodo dans un bon lit et d'avoir mangé du croissant, du pain et du fromage, bah j'ai un espèce de coup de blues. Et qui généralement me quitte pas pendant 3 semaines. Je me sens mal parce qu'en fait je me sens en décalage avec mes amis, en décalage un peu avec mon entourage. Et puis à un moment donné, bon bah faut que ça reparte. Du coup, comment ça repart ? Bah je reprogramme des voyages pour me faire du bien.
Comment tu considères les rencontres en voyage ? Est-ce que c'est plutôt des relations à usage unique ou des relations que tu gardes ? Et est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a particulièrement marqué ?
C'est drôle parce qu'au début, en fait, chaque rencontre est importante. Quand tu débarques en voyage, tu te dis « Oh, cette personne est trop cool, je veux qu'on se revoie en rentrant, celle-là aussi. » Puis au fur et à mesure, tu te rends compte que bah c'est pas nécessaire, que ces personnes-là, en fait, elles sont venues ponctuer ton récit et puis pimenter un peu ton quotidien. Et ça a été beau parce que c'était à tel endroit et à tel moment. Donc ces personnes-là, bah ce n'est pas grave, tu les reverras pas. Mais c'était trop cool, ou pas du tout d'ailleurs, parce qu'il y a des personnes que tu ne veux pas revoir. Et puis il y en a d'autres, tu dis « Ok, là, il y a vraiment eu un bon feeling et je sais que dans la vie, dans ma vie, c'est des personnes que je veux revoir. » Donc il y a ces personnes-là avec qui on a vraiment gardé contact. Je pense à 2-3 personnes, 2-3 nanas qu'on a rencontrées et qui sont aujourd'hui encore dans nos vies. Et ça, c'est trop chouette. Et puis une personne qui nous a particulièrement marqué, oui, forcément, c'est Louis. On n'est pas forcément en contact aujourd'hui. Après, nous, on suit sa chaîne. Moi, je regarde beaucoup ses petites photos, ses petites vidéos, puis ses reportages, parce qu'aujourd'hui, il est sponsorisé. Avec tout son petit bazar qu'il a fait, bah, il a bien mené son chemin. Louis, il m'aura bien marqué.
Pour se parler du futur maintenant, quels sont tes projets dans les mois à venir ?
Le contexte actuel a fait que ça a été compliqué pendant des mois de se projeter. Moi, je l'ai pas très bien vécu, parce que voilà, je suis quelqu'un qui aime beaucoup me lever le matin et avoir un objectif, que ce soit à court terme ou à long terme. C'est voilà, il y a des gens qui s'en foutent, ils se lèvent, ils vivent au jour le jour. Je ressens pas les choses comme ça, donc ça a été compliqué. Et puis récemment, j'ai eu comme une petite révélation. Je me suis dit, allez Laura, ça repart en fait. Faut juste se donner les moyens, même si c'est pour partir à 10 km de chez moi, c'est pas grave, ça me fera du bien. Bon, puis en fait, je pars pas à 10 km. On part au Cap-Vert, là, dans les 10 jours à venir. On va partir un peu, donc, en Afrique, sur les îles. Ça, c'est le projet à court terme. Et puis à long terme, j'aimerais bien, ouais, partir en Asie. Je ne connais absolument pas l'Asie.
On arrive à la fin de cet entretien. Donc tu as un petit espace qui t'est réservé, dans lequel tu peux partager une dernière anecdote, une recommandation, un proverbe, une citation. C'est à toi.
Je suis un peu prise au dépourvu, mais là, tout de suite, ce qui me viendrait... Bah, je pense qu'au final, en voyage, ça a été un peu la conclusion aussi de ce voyage au Mexique, c'est que on est parti à deux, mais on se connaissait pas forcément très bien. Et puis, toutes ces rencontres, que ce soit Louise, que ce soit Marine, que ce soit Fabiola, que ce soit toutes ces gens, en fait, qui ont croisé notre vie, en fait, au quotidien, parce que tu rencontres des gens au quotidien, bah, ça nous a nourri personnellement, et puis je pense que ça a nourri notre couple. Et je suis rentrée, bah, bien, en fait. Et j'avais beaucoup d'a priori, je connaissais pas le Mexique. Bah, en fait, je remercierais ce pays de nous avoir donné la chance de nous rencontrer de cette manière-là, en fait. Et d'avoir envie de continuer à découvrir plein d'endroits aussi beaux.
Merci beaucoup. Et voilà, c'était Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Merci également à mon invité pour sa chouette histoire. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre application d'écoute préférée. Vous pouvez aussi écouter Bourlinguer sur la web radio Voyage, Allô la planète. Vous pouvez également suivre le podcast sur Instagram, bourlinguer.podcast. Ah oui, une dernière chose. La musique que vous entendez derrière s'appelle « J'ai bourlingué ». Elle a été écrite et interprétée par Serge Raphaël. Merci à lui.